Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de nouveau de vous retrouver pour Délivrez-vous pour ces deux ailes avec un livre magnifique. Nous allons rentrer, nous sommes déjà rentrés, vous le savez, dans cette société dite de consommation, rien n'est jamais laissé au hasard. Donc nous allons rentrer dans la période de Noël avec bien sûr la sortie de livres magnifiques à s'offrir ou à offrir bien évidemment. Alors je veux commencer cette période de beaux livres avec tout d'abord un auteur que j'apprécie particulièrement, un historien que j'ai toujours plaisir à recevoir, que je lis depuis de nombreuses années et que je reçois dès que je le peux ou surtout dès qu'il est disponible. Et là aujourd'hui, eh bien, nous le retrouvons avec un livre sur la peinture en histoire, écrire, peindre la peinture. C'est très joli, c'est un livre magnifique avec de magnifiques illustrations, de belles peintures, un très joli texte. Le talent de l'auteur plus le talent de son éditeur, voilà, je sais que ça lui fera plaisir que l'on en parle. Et bien tout ça en fait un livre intéressant, ludique, instructif pour les petits et les grands. Bonjour Didier Le Fur.
Bonjour.
Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Merci d'avoir accepté de nouveau mon invitation pour peindre l'histoire aux éditions Passé Composé. Alors bien sûr, Didier Le Fur, historien, vous êtes un spécialiste du 15e et 16e siècle. On vous connaît pour Marignan 1515, je vous avais reçu pour ce livre très intéressant. François Ier qui a eu également un grand succès. Et puis bien d'autres biographies. Là, aujourd'hui, c'est vraiment l'histoire avec écrire l'histoire au pinceau. Alors tout d'abord, moi je voudrais connaître l'histoire de ce livre, parce que forcément il y a une histoire dans l'histoire.
Oui, toujours, c'est même le principe. C'est venu petit à petit et avec difficulté en fait. Dans chacun de mes livres, notamment quand il s'agissait de personnages, je travaillais essentiellement sur l'image. Oui. L'image avec les textes qui faisaient image et puis quelquefois les images au sens propre. C'était en général une iconographie qui était contemporaine du personnage.
Oui.
Et qui devait traduire soit les textes en les résumant, soit autre chose, un projet politique et ou une ambition.
Oui.
Et c'était surtout un matériel de miniatures, de gravures ou de représentations théâtrales et des choses comme ça. À chaque fois aussi, de tous ces personnages, je travaillais sur ce souvenir, sur la manière dont finalement ces gens avaient voulu, certes, voulu se voir ou avoir été, avaient voulu se représenter, et puis après comment les gens, la mémoire collective, s'en étaient souvenus et peut-être l'avaient représenté, mais c'était souvent par l'écrit. Et en arrivant au 19e, j'avais toujours ce choix, avec une iconographie qui arrivait comme ça, une peinture, et qui venait illustrer. Cette peinture, elle était archi connue, puisque, en général, elle illustrait toutes les revues, toutes les histoires de France, toutes les livres illustrés qui pouvaient être publiés depuis une quarantaine d'années. Et elle servait comme une sorte de photographie, un peu comme pour Paris Match, avec, avec les photos qui accompagnaient le choc des mots. Et et je savais pas trop quoi en faire. Et souvent, cette iconographie était très loin du travail ou de l'image contemporaine de ces personnages, mais accompagnait malgré tout le souvenir à partir du 19e siècle. J'avais fait pour Anne de Bretagne, il n'y avait pas beaucoup d'images. Pour Louis XII, il n'y avait pratiquement rien non plus. Charles VIII, pareillement, mais pour Marignan, François Ier, déjà se dessinait des choses. Et je mettais ça un peu de côté. Et puis un jour, je me suis dit quand même, ce serait peut-être bien de travailler un peu plus sur cette peinture, sur cette manière de résumer l'histoire à travers, non pas une photographie, non pas à travers un texte, mais à travers un tableau. Et laisser croire, puisque c'est ça le principe, c'est-à-dire de laisser croire que les historiens ou les peintres, grâce aux historiens, avaient pu saisir un moment de ce passé, un moment tragique, un moment décisif, un moment émotionnel. Et ce résultat, en fait, faisait appel à notre imaginaire, à notre sensibilité quand on le regardait, et on avait l'impression d'une intimité nouvelle avec ces personnages. Et puis en travaillant un petit peu plus dessus, je me suis aperçu que finalement c'était une peinture qui était très très loin de la réalité. mais un peu comme les textes qui paraissaient sur ces personnages-là au même moment. Mmh. Et là, je me suis dit que peut-être il y avait matière à faire un livre. Voilà. Mmh.
Eh bien, la matière de ce livre est fort bien réussie. Alors, on se balade littéralement dans l'histoire avec ce livre, Vercingétorix, Geneviève, Jeanne d'Arc, François Ier, Charlemagne. C'est vraiment une allégorie de tous ces personnages connus et reconnus qui ont fait notre histoire, avec la représentation donc de ces iconographies, avec des textes appliqués à chacune de ces iconographies. Alors, moi, il y a des choses qui m'ont étonnée, parce qu'on se représente ces personnages, Charlemagne, François Ier, Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc, on va dire que c'est la guerrière, Geneviève, c'est la bergère. Vous dites le prince chevalier concernant François Ier. Clovis, c'est vraiment les origines. Et alors, il y a sur ces visages des sentiments, peut-être qu'on leur prête, et que peut-être ils n'ont jamais éprouvé ou ressenti. C'est la magie de la peinture, ça aussi.
Alors c'est deux choses. C'est-à-dire en général, à part jusqu'à François Ier, oui. Officiellement depuis Jean II, mais au moins dans cette peinture-là, à partir de François Ier, on n'a pas les visages des personnages.
Oui.
Donc ce sont des personnages qu'on va inventer, des visages qu'on va inventer, des structures, des physiques, des allures qu'on va créer en fonction de l'image qu'on a de ces personnages dans ce 19e siècle. Même si cette peinture d'histoire ancienne va commencer dès le 18e, mais c'est surtout au 19e qu'elle devient...
Donc on représente les visages et les corps au travers des écrits, puisque nous n'avons pas de photos, bien évidemment.
Exactement, c'est-à-dire, et c'est surtout à travers les écrits et à travers l'idée qu'on s'est fait peu à peu aussi, peut-être mentalement, de ces personnages. Charlemagne, bien évidemment, sera toujours présenté barbu, alors que finalement il a sans doute jamais porté cette barbe. Saint-Louis sera toujours un prince jeune, même s'il meurt à 53 ans, en prenant comme une éternelle jeunesse. Il y a cette idée de fixer un physique comme ça, à travers le temps, presque intemporel, et le faire évoluer à travers tout un règne et toute une série d'actions. Mmh. Et c'est cette image-là, fixe, d'un personnage qui finalement ne vieillit pas, qui aide à l'imaginaire à construire en nous. Et je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient tout ça, mais en tout cas ça a été répété à foison, qui reste en nous comme une image, j'allais dire pas simpliste, mais en tout cas bien construite, et qui permet d'individualiser chaque personnage, alors que ces personnages-là, je vous l'ai dit, on avait qu'une iconographie liée à la sculpture ou liée aux miniatures, qui était souvent extrêmement réduite. Mmh. Et par rapport à tout cet imaginaire de physique, eh bien, on a aussi essayé de caractériser des sentiments à travers ces personnages. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, un personnage plus âgé comme Charlemagne exprimant forcément la sagesse, Saint-Louis toujours jeune exprimant toujours aussi une sorte de juvénilité et une sorte de d'énergie à faire. Jeanne d'Arc et
en guerrière,
et Geneviève, eh bien, ont été finalement assez semblables dans leur physique. Pour Clovis, par exemple, qui a été le premier représenté, il y avait à la fois cette sagesse et cette jeunesse, et puis ce Vercingétorix dont on n'avait absolument pas le visage, eh bien, on a d'abord créé le physique de cet homme à partir du physique de Vercingétorix, de Clovis.
De Clovis.
Et puis peu à peu, comme Clovis, parce que un peu trop imprégné de l'imaginaire monarchique et chrétien, est devenu de moins en moins à la mode, et bien peu à peu, le physique de Vercingétorix
s'est
individualisé. Et pour finalement créer ce personnage de Gaulois tel qu'on connaît, pardon, avec moustache et cheveux blancs. Mmh. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'à la fin du 19e siècle, et notamment dans l'imaginaire chrétien, parce que justement depuis 1870, Clovis était devenu un affreux allemand et donc un envahisseur. Mmh. Et bien pour le rétablir dans l'imaginaire des chrétiens comme une base essentielle de leur unité entre eux en France, et bien on va prêter à Clovis le physique de Vercingétorix pour le refaire gaulois. Mmh. Et c'est tout cet imaginaire là qui se mélange pour nous aujourd'hui, mais qui finalement reste dans l'idée d'une unité et d'un long progrès, d'une longue chaîne comme ça, où chaque personnage, avec des physiques différents, eh bien, aura apporté une pierre à l'édifice du progrès de la civilisation française. Cette notion de civilisation française qui était une création de la fin du 19e aussi. Mmh. Enfin, du début du 19e aussi, pardon.
Dans la représentation, par exemple, d'Henri IV ou de François Ier, on est plus près de la réalité de leur visage, de leur
alors,
apparence.
On est pas plus près, mais on est plus près du visage qu'on leur proposait de l'époque. C'est-à-dire que là, pour François Ier, par exemple, on est parti essentiellement au départ du portrait du Titien. Oui. Alors, le Titien n'avait jamais vu François Ier en vrai, mais il l'avait peint à partir d'une médaille. Mmh. Et c'est ce fameux portrait de profil comme ça. Mmh. Et c'est pour ça que la plupart des peintures au début, en tout cas de François Ier, parce qu'on connaissait pas encore le Clouet, qui était de face, et bien la plupart des représentations de François Ier de profil. Dans tous les tableaux que vous avez de la fin du 18e et surtout du début du 19e, François Ier est toujours de profil avec pratiquement le même costume. Et pour Henri IV, il y avait une iconographie beaucoup plus importante, et donc finalement là, le physique n'a pratiquement pas changé. Mmh. Et c'est mais par contre, alors que pour les autres, on est représenté dans une action du pouvoir liée à l'imaginaire culturel, liée à l'imaginaire guerrier, à l'imaginaire de judicature ou économique. Mmh. Et ben pour Henri IV, par contre, eh bien on l'a principalement représenté au début, en tout cas, dans un univers privé. Mmh. Et en jouant comme ça sur l'intime. Et c'est cette notion de l'intime d'Henri IV, comme ça, qui va se développer aussi par rapport aux autres, et où on, peu à peu, et notamment pour François Ier, ça va se voir d'une manière assez probante, exactement. Quand on va essayer de structurer cette image de prince amoureux des arts, amoureux des lettres, et lui-même auteur de poèmes.
Pour Henri IV, est-ce que justement cette image dans l'intimité en a fait ce personnage attachant, près du peuple, près des gens, assez simple finalement, aimant la bonne chair, aimant les femmes et la vie? Ça a contribué à l'image du personnage?
Alors l'image, elle était déjà littéraire et elle était déjà essentiellement développée au XVIIIe siècle, à partir de certains textes, mais c'était des textes de poésie ou c'était des pièces de théâtre. Mm-hmm. Et à partir de ces succès populaires, eh bien qu'on va reprendre, et il est incontestable que l'image d'Henri IV, bon roi, simple, tel qu'on le concevait dans la littérature, pour l'opposer finalement à une dérive de la monarchie, non pas forcément absolutiste, mais éloignée du peuple. Mm-hmm. Et bien, de revenir à cette proximité-là, il est incontestable que l'image d'Henri IV a été largement utilisée pour justement montrer que, notamment, cette restauration monarchique sous Louis XVIII ou Charles X, voire même sous Louis-Philippe, était devenu beaucoup plus proche du peuple, beaucoup plus était capable de le comprendre, de vivre avec, de s'y intéresser, et donc de fait de montrer aussi une évolution ou une transformation de la monarchie, non plus celle d'avant 89, mais une nouvelle que Henri IV aurait créée qu'on aurait oubliée. Mmh. Et cette peinture d'histoire a incontestablement aidé à travailler sur cette image-là.
Alors, je suppose que concernant François Ier, on savait qu'il était de haute taille, donc ça, c'est une réalité. On le peint toujours très grand. Il est toujours très grand dans les peintures.
C'était pas encore une préoccupation jusqu'à l'arrivée de cette armure prise par Napoléon en Bavière. Oui. C'était pas une préoccupation du tout de savoir si François Ier était grand ou petit. Oui. Il était grand parce qu'il était un grand roi à la rigueur, pour ceux qui l'aimaient bien, ceux qui ne l'aimaient pas ne regardaient même pas cette chose-là. Mmh. Et c'est à partir de ce début 19e, à partir du moment où de cette arrivée de cette armure, prétendument faite pour François Ier, qu'on a commencé à dire qu'il était très grand de taille. Là encore, la notion de la grandeur de taille, elle avait un sens parce que justement, on avait l'impression que l'idée, en tout cas, alors qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on était petit avant et qu'on grandit de plus en plus.
Oui, c'est vrai.
Eh bien, au XVIe siècle, c'est le contraire. Il y avait des géants et peu à peu, on réduit aussi peu à peu la taille. Alors, il y a l'idée de rester comme un géant, comme les premiers hommes, mais il y a aussi l'idée aussi que les grands ne sont pas forcément très dégourdis. c'est ça, ils sont empotés et tout. Ils sont d'ici, voilà, ils courent mal à la guerre et tout. Donc finalement, être grand à la fin du 15e et début 16e siècle, c'est pas forcément un avantage et forcément pas forcément une gloire non plus. Mmh. Et physiquement, si on disait qu'il avait une belle taille, on disait qu'il avait des petites jambes et un long corps, enfin bon, c'était pas forcément très 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 bien ficelé. Mmh. Et donc, cette notion-là n'était pas forcément très glorieuse. Elle est devenue glorieuse finalement que très tardivement, dans l'idée finalement que le grand homme devait être grand de taille aussi.
D'accord.
Et c'est cette notion-là, et c'est très drôle, elle s'est vraiment développée dans les 50 dernières années, peut-être dans cette idée aussi que comme De Gaulle était grand et qu'il était un grand homme
peut-être,
aussi, et bien voilà, il y avait cette idée-là.
Oui. Enfin, Napoléon n'était pas très grand et c'était quand même un grand homme, ça n'engage que moi.
Mais... Oui, mais pendant très longtemps, on l'a critiqué aussi très très durement et on a dit aussi que c'était un despote, un tyran et tout ça.
C'est vrai, on est bien d'accord. Chose sur laquelle je me suis arc-boutée fort, fort longtemps et toujours encore aujourd'hui, avec la collaboration de M. Thierry Lanz, hein, qui connaît très bien l'histoire, que vous connaissez sans doute. Alors, ce sont des personnages, je dirais, bien choisis, parce qu'on le disait, finalement, on ne connaissait pas leur vrai visage, leur apparence. Ce que vous disiez, qu'à partir du 19e, c'était plus probable, la peinture était plus... Donc, je suppose, donc, par exemple, pour justement Bonaparte, les Louis XIV et les Louis XVI, la représentation est un peu plus juste, du coup.
À partir de François Ier, la représentation
est plus juste.
Ce qu'il y a d'assez amusant, c'est que finalement, cette peinture d'histoire ne s'est pas trop intéressée à ces personnages, justement, surtout depuis Louis XIII,
oui.
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Bonaparte et autres.
Et
simplement parce que dans les collections royales et impériales, il y avait déjà cette peinture d'histoire qui traduisait, pas au jour le jour, mais en tout cas, du moins en moi, les règnes. Par la peinture. Cette chose n'existait pas avant, et quand on a décidé de créer au Louvre d'abord, puis après à Versailles, ce musée de l'histoire de France, eh bien, sous l'impulsion politique incontestable de Louis XVIII, et puis après de Charles X, et puis de tous les autres souverains et autres présidents, ou empereur, eh bien, on a poursuivi cette démarche de refaire ce livre d'histoire complet par la peinture. Mmh. Alors, elle existait par des restes contemporains depuis Louis XIII, et on a réinventé finalement tout ce qui manquait avant, et depuis les origines. Alors, d'abord Clovis, bien évidemment,
bien sûr,
puisque c'était...
C'est l'origine gauloise, bien
toujours
sûr.
L'idée du père fondateur de la France, et de l'unité de tous les peuples français autour d'une même religion, et donc autour d'un même roi. Et puis peu à peu, en s'éloignant de l'idée que la France finalement n'avait que des racines chrétiennes, mais en essayant de trouver d'autres racines, et bien l'intervention des Gaulois et bien évidemment des Vercingétorix, qui représentaient à la fois le prototype même de l'homme capable de donner sa vie pour la liberté, et puis aussi de celui qui serait sacrifié devant le despotisme et aurait été la victime du despotisme, et par conséquent avait forcément une image un peu plus, j'allais dire, positive dans l'imaginaire, notamment républicain, qu'un Clovis qui restait douteux, soit par ses origines franques, soit parce qu'il avait simplement été roi.
Alors, dans le choix de ces peintures, moi, j'y vois une forme aussi de réhabilitation. Et puis, j'ai été contente qu'il y ait deux femmes, Geneviève, Sainte Geneviève, et puis Jeanne d'Arc. Ça a été des femmes fortes que les gens connaissent. Alors, connaissent plus ou moins l'histoire, mais de toute façon, elles font partie d'une manière prépondérante dans notre vie d'histoire et de connaissance de l'histoire. Jeanne d'Arc, peut-être plus que Geneviève, en tout cas.
Aujourd'hui, parce que Geneviève a été bien plus populaire que Jeanne d'Arc pendant très très longtemps. C'est ça aussi l'évolution des choses. C'est que Geneviève a été régulièrement, même sous la monarchie et pendant longtemps, on a tenté quelquefois ponctuellement comme ça d'en faire une sainte nationale. Ça n'a jamais fonctionné. Mais depuis l'Empire, eh bien, elle a repris, et pendant tout le 19e, elle avait repris une puissance énorme, et notamment en France, à Paris et dans l'Île-de-France, mais aussi d'une manière nationale, puisque finalement, Geneviève protège le Premier Empire, Geneviève protège aussi le Second Empire.
Le Second Empire.
Et elle avait une dimension bien plus grande que celle qu'on lui accorde aujourd'hui dans notre imaginaire, voire même dans notre quotidien.
Oui. J'ai trouvé aussi au travers de ce livre, du choix des personnages, des textes, de votre part une forme, alors peut-être, je sais que ça va peut-être vous faire sourire, une forme de romantisme et un côté romanesque, c'est-à-dire mettre au jour ces iconographies de personnages emblématiques, connus, mythiques, mais pour réhabiliter une forme de physique, d'apparence et d'expliquer les choses au travers de ces peintures.
Ben, c'est-à-dire que c'est en fait c'est très éducatif.
Oui. C'est pour ça que je disais pour tous les publics.
Et c'est là où c'est pour tous les publics. On oublie aussi aujourd'hui avec nos médias, presse, radio, télé et photographie partout. Enfin, des images, on en a partout. On visualise n'importe quel président de la République, n'importe quel terroriste, n'importe quel personnage qui fait notre quotidien. On a son image. Or, pendant très longtemps, il n'y a pas cette image-là. Il y a une image, à la rigueur, de certains saints ou de certains souverains, comme ça, lors de fêtes, dans les églises ou sur des vitraux, des choses comme ça, mais c'est plus une figure, c'est plus une silhouette qu'un visage propre avec des émotions et des choses comme et des caractéristiques particulières. À partir de ce 19e, et parce que justement aussi, il y a une évolution dans le récit historique. Et ça, Walter Scott était passé par là, avec ses romans, qui ont eu un succès fou en France. Et donc, de fait, on n'était plus dans une histoire factuelle, un récit chronologique, guerre, bataille, traité de paix, alliance et autres choses comme ça. C'est-à-dire qu'il était dénué complètement de sentiments et d'émotions, mais dans une volonté de recréer un imaginaire, de recréer une intimité, de recréer, par l'écrit d'abord, pour les historiens, et de recréer comme ça une ambiance. Et cette évolution de l'histoire, elle s'est poursuivie avec l'histoire des mentalités, l'histoire culturelle et tout ça, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, c'était cette nouvelle façon d'imaginer l'histoire, elle a été pour les peintres une autre manière aussi de pouvoir s'exprimer et de pouvoir justement exprimer des émotions qu'un champ de bataille n'exprime pas forcément au XVIIe ou au XVIIIe siècle, où là on est vraiment dans des choses assez carrées, assez il y a les vainqueurs, il y a les vaincus, c'est avant, pendant ou après la bataille, mais on est dans quelque chose d'assez sobre. Et les peintres du XIXe siècle vont s'autoriser incontestablement à exprimer sur une peinture la colère, la peur, la crainte, le dévouement, la dévotion,
l'amour aussi, bien sûr,
et bien évidemment, et donc donner de la chair à ces personnages de l'écrit, à ces personnages dont on savait quelquefois plus grand-chose ou pas grand-chose, et dont on sait toujours pas grand-chose, mais qui là, par la peinture, était incarné, avait un physique, avait des vêtements, avait des sentiments, avait des émotions. Et donc, forcément, consciemment ou pas, parlait davantage, sans doute, mais comme un film aujourd'hui, comme une émission télé, parle peut-être sans doute bien plus qu'un livre d'histoire au public ou au lecteur. Et c'est là où il faut faire attention, parce que justement, ces images-là parlent tellement et sont tellement fortes qu'on peut dire aussi, où on peut simplifier un discours, où on peut, comme cette peinture d'histoire l'avait faite, et souvent aussi dire, pas forcément des bêtises énormes, mais un peu s'éloigner d'une réalité. Et vous laissez croire que finalement, et c'est ça peut-être le danger, qu'on était capable de retrouver une intimité, alors que finalement dans les textes, on en est totalement dépourvu.
Mais je trouve que ce livre aussi les ramène à une forme d'humanité, ça les rend plus accessibles, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
Plus accessibles, plus abordables.
Ils appartiennent à la famille, si j'ose dire.
Tout à fait.
Et ils deviennent concrets dans notre imaginaire. Mais c'est comme si les chanteurs ou les comédiens, quand ils étaient que sur des scènes de théâtre ou des choses comme ça, et ils étaient loin.
Bien sûr.
Là, la proximité de la télévision ou de tous les autres médias, font qu'ils rentrent dans votre intimité, d'où ces émotions collectives qu'il y a à leur décès aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant.
Mais on a l'impression...
Et finalement, la peinture d'histoire a été une base de ce genre de choses.
On a l'impression aussi qu'avec cette peinture d'histoire, le dialogue peut s'ouvrir, on peut communiquer. Le texte y aide aussi par rapport à l'iconographie. On a envie on dévisage le personnage, on essaye de savoir ce qu'il y a derrière. Enfin, moi, j'ai bien regardé chaque image, chaque iconographie pour tenter d'apercevoir quelque chose, voyez. Et chacun l'abordera de façon qu'il le souhaite, mais on lit le texte et puis on reste un moment devant cette iconographie en essayant de percevoir des choses qui qui finalement ne nous concerne que nous, mais c'est l'impression d'un dialogue, voilà, d'une rencontre, voilà.
Oui, et puis ça fait forcément appel à nos propres sensibilités émotionnelles, à notre propre imaginaire aussi, à notre propre vie. Moi, je sais que j'ai toujours été assez épaté par cette peinture de l'assassinat d'Henri IV, parce que je trouvais que on était vraiment dans l'idée de l'instant immédiat, des émotions multiples qu'il pouvait y avoir lors de cet attentat, et dans une toute petite rue de Paris, et où tout le monde finalement a
rue
des
de
émotions
la
différentes,
on le rappelle,
et où d'un seul coup,
rue
tout peut changer. Et cette peinture est d'une force, mais exceptionnelle. C'est comme une photo instantanée d'un assassinat aujourd'hui, quoi. Voilà. Et là, le talent de reproduction et le danger aussi de mettre tant d'émotions autour, parce que c'est un vrai danger aussi, parce qu'il n'y a pas eu toutes ces choses-là, mais peu importe. L'important, c'était de réactualiser quelque chose, une force, et peut-être aussi au-delà de. Il y avait tout un accompagnement de politique aussi dans cette commande de Napoléon III
de ce tableau.
Tout simplement parce que lui aussi avait échappé à un attentat quelques mois plus tôt.
Tout à fait. Il peut y avoir une suite à ce livre, Didier Le Fur.
Oui, il peut y avoir les méchants. Parce que là, grosso modo, c'est quand même les gentils.
Oui, c'est vrai.
Il peut y avoir les méchants. Oui. C'est vrai, il y a beaucoup de matériaux sur Louis XI, sur Henri III, Charles IX, Catherine de Médicis. Charlotte Corday qui est très ambiguë.
Oui. Robespierre,
Danton. D'un côté, elle peut être bonne, de l'autre mauvaise. Et on a tout un récit en peinture de son action.
Il peut y avoir Robespierre et Danton aussi.
Des hommes préhistoriques.
Oui, aussi.
Qui sont à la base, ou les premiers Gaulois qui sont considérés comme
ça peut aller très loin. On peut faire des tribus qui n'existent plus, les Indiens d'Amérique. Ça peut être vaste.
La justification des conquêtes et la manière dont on a aussi justifié les massacres aussi. Il y a plein de choses comme
bien
ça.
Sûr.
Non. Il y a curieusement. Les personnages que j'ai choisis là étaient les plus riches en images.
Oui, oui. D'accord. C'est étonnant.
Évolution de l'image.
C'est étonnant parce que quand on pense au nombre, par exemple, d'écrits sur Napoléon Bonaparte, et finalement, il y a des tableaux, il y a des images, mais vous me dites que c'est pas celui qui remporte la palme. C'est étonnant.
Non, parce qu'il a été peint de son vivant énormément.
Oui.
Mais après. À part sur au moment de sa mort et le retour des cendres et puis la mise au tombeau et tout ça, à part cette peinture là, il n'y a pas eu une peinture d'histoire de recomposition de son passé énorme. Mm-hmm. Comme pour Louis XIV finalement, toutes les peintures de Louis XIV qu'on a sur le XIXe siècle, elles concernent essentiellement son mécénat.
Mm-hmm.
Mais tout ce que Louis XIV avait voulu de lui-même quand il s'était fait peindre de son vivant, et bien ça, on l'a laissé, peut-être parce qu'on avait déjà le matériel. Et donc, on a accentué sur une image qui n'était pas vraiment développée par Louis XIV, c'est-à-dire son mécénat, les rencontres avec Boileau, les rencontres avec Molière.
Tout à fait, oui.
Et on a tous ces aspects qui complètent finalement une image déjà existante par rapport à un patrimoine déjà existant.
Oui.
Pour Napoléon, on achève sa vie en peinture justement avec sa mort.
Oui.
Mais parce que justement, là où il était à Sainte-Hélène, on l'avait pas repeint, tout cas de la même façon et avec autant d'énergie que lorsqu'il régnait sur la France.
Mmh.
Et voilà, c'est des compléments d'image ou d'évolution d'image et en fonction du souvenir qu'on se fait de ces personnages qu'on va peindre. Pour Clovis, pour Vercingétorix, pour même Saint-Louis, il fallait vraiment pratiquement refaire tout leur règne.
Oui.
Et c'était ça qui devenait très intéressant à traiter.
En tout cas,
voilà. Et puis il y en a d'autres aussi qu'on peut faire, mais...
Oui.
Ça, c'est après, c'est de savoir si le livre marche ou pas. Si ça marche, peut-être. Sinon, tant pis.
En tout cas, c'est un livre magnifique. Moi, que j'enjoins à chacun de s'offrir ou à offrir. Je le disais au début de cette émission pour Noël. Voilà, si quelqu'un est passionné de peinture et d'histoire, eh bien, je trouve que c'est un complément pour les enfants, pour les de 7 à 97 ans, parce qu'aujourd'hui, on va dire 97 ans, on vit bien plus longtemps. Peindre l'histoire aux éditions Passé Composé avec Didier Le Fur. Ça a été un vrai bonheur de vous recevoir comme d'habitude. Rapidement, vos prochains projets d'écriture en manière d'histoire, votre prochain livre, dites-nous rapidement. prochain projet pour lequel on vous retrouvera?
Non, c'est un livre collectif sur les guerres d'Italie.
D'accord.
Et en gros, c'est une dizaine d'auteurs travaillant sur un pays différent, ou une région ou un État. Mmh. Milan, Venise, Rome, Naples, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Suisse et autres. Et où chacun, finalement, de leur pays, eh bien, regardera et parlera de ces guerres d'Italie. Et là, on va voir comme ça que finalement, ce temps que nous, on conçoit, d'une certaine manière, eh bien, tous ces autres États, en fonction des alliances avec la France, avec l'Empire, et puis de leur propre intérêt, ou au contraire de des contraintes que ces guerres leur ont imposées, eh bien, ont vécu, parlé et apprécié ou rejeté justement ce temps de guerre. En fin de compte, c'est une manière de faire une histoire, non plus ramasser toutes les sources qu'on pouvait avoir à droite à gauche pour essayer de construire quelque chose, parce que ça, c'est, du coup, cette construction, elle est fragile, mais au contraire, laisser à chaque État leur personnalité et leur regard sur un temps qui a été un temps de guerre européenne.
Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous retrouvera en tout cas toujours avec plaisir pour ces nouveaux projets. Peindre l'histoire aux éditions Passé Composé, c'est un vrai bonheur de vous recevoir. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, une bonne fin d'année. Et puis, je vous dis à l'année prochaine, j'espère.
Peut-être début 2021.
D'accord, ok. En tout cas, ce micro vous aide définitivement ouvert, Didier Le Fur. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Vraiment, merci. Au revoir.
Au revoir.